Les filles de joie.
Elles sont là.
Joie.
Au 107.5 sur RTWA.
Dans la joie.
Est-ce qu'on n'irait pas voyager un petit peu, Nénu?
Où ça?
Au paradis.
Des filles de joie.
Mais oui!
Mais qui sont-elles?
Les filles. Ouh là là, mystère.
Joie. C'est parti. Bonsoir à tous. Ça y est, la connexion est faite. Le direct entreprend son chemin entre les antennes. Et là, c'est tant mieux, je ne peux me retenir de relever la sauce magique de la radio. L'art de la diffusion, l'égarement du son, au hasard de notre émission. Les filles de joie grossissent leur codex, dessinent leur forme, moulent leur dire, filment leur réel. Tous nos plats sont réécoutables en podcast, c'est formidable. Au fond, il n'y a pas d'importance aux choses que lorsque l'idée devient force créatrice. Cette force a le pouvoir d'imaginer et de concrétiser une vision du monde. Cette vision du monde, sincère, est personnelle, mais peut avoir un impact signifiant sur ce qui est accessible à la communauté. Alors, chérie, tu me suis ? Bon, là, j'ai parlé d'idée qui devient création, qui devient El Mundo, et en catimini, suave mente, on arrive déjà au thème de ce soir. Mais avant tout, peut-être faudrait-il faire les choses dans l'ordre ? Non. Non, l'ordre, ce n'est pas quelque chose d'inspirant ici, ni ailleurs d'ailleurs. En fait, oui, non. Vous savez à quel point l'aventure des filles de joie roucoule sous nos mains d'artisanes encore ce soir, pour demain, on l'espère, et jusqu'à ce que le patriarcat dégringole, dégage, découle et se défasse de son pissotoir perché en haut d'une montagne de rien du tout. Ceci n'est pas vraiment vrai, puisque ce serait beaucoup trop lointain comme objectif, quand bien même nous nous rapprochons parfois de quelque chose d'envoûtant, tel nous, tel vous, tel père, tel fils, j'ai vomi, j'abuse, tel mi-mort, générique. Tu entends ce crépitement ? Nous aussi. C'est le feu de joie qui brûle sous l'envie de frivoler. Oh les cœurs. RDWA présente. Les filles de joie. Émission au BPM mensuel qui se joue du patriarcat pour allègrement le réduire en paillettes. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, en vrai.
Mais
ça
oui.
Fait tellement plaisir. Voilà, donc on est là ensemble pour une heure et demie. Va falloir arrêter à 20h50, je le dis ici, comme ça.
On n'a même pas commencé qu'on doit déjà finir.
Non, merde, pardon.
Oh my god.
Auditeur, auditrice, ce soir, le thème, c'est...
Dardard.
C'est-à-dire
non mais avant tout, présentons-nous à ma droite, Nénu à la technique, Nénu l'inoubliable, Nénu là toujours présente.
Nénu.
Yeah. À ma gauche.
C'est Lulu le bzz, bzz.
Lulu.
C'est Lulu le bourdon.
L-U, bang.
Mais d'où vient le bourdon déjà? Rappelons-nous.
Alors le bourdon, mais Majdou, tu ne te souviens pas du bourdon? Un jour j'ai débarqué dans le studio de Early One. Comment elle était habillée, Lulu? Elle était habillée en bourdon. Et ça a évoqué tout le monde, le petit bourdon. Parce que, non mais voilà, en fait, je vais arrêter de faire la con. Mais ce jour-là, j'avais une veste en fourrure fausse, évidemment.
Je me souviens, c'était quand on faisait Opération Bourgeon.
Opération Bourgeon.
Épisode numéro 3.
J'étais en bourdon, donc j'étais dans le thème totalement.
Et en fait, on a eu un retour d'hiver pendant qu'on était en train de parler du printemps. Et il faisait genre moins 15 dehors.
Et là, c'est un peu l'inverse aujourd'hui. On est le 27 octobre, n'est-ce pas?
Et c'est un retour d'été.
Et on est en culotte.
Ah, oui. Sur Erdiva.
Mais oui.
Et à ta gauche, nous avons Noah.
Noah.
Et à ta gauche,
parce qu'on adore la gauche, Marianonima.
Marianonima.
C'est très mystérieux.
C'est plein de mystères.
On se demande comment tu t'appelles, Marianonima.
C'est un vrai mystère.
Et à ta gauche.
Attention, roulement de tambour pour la personne à la gauche de Marianonima.
Madame, quand on fait ça, les gens chez eux, chez elles, aiment pas du tout dans leur poste de radio. Elles sont là un peu en mode, qu'est-ce qui est en train de se passer, un tremblement de terre, comment je fais?
Presque.
Mais bon, voilà.
Mais pour Madame Trottoir, on peut faire trembler la terre.
On fait trembler la terre, voilà. Et à votre gauche.
Eh bien Marguerite, j'ai écrit l'amant, c'est moi ce soir, je suis là à Radio Diwa pour vous rappeler que j'existe.
Oh,
elle a ressuscité.
Marguerite est là.
Une ressuscitation. Voilà, du monde souterrain.
La résurrection.
Est-ce qu'on a présenté la plus belle?
La plus belle.
Celle qui est au mic ce soir, qui anime en partie l'émission. Je demande Majdouli.
J'ai envie d'enlever mon casque et de me casser d'ici.
T'es trop modeste, Majdou.
Allez, ce soir, on parle de l'art.
Et de la politique.
Et de la politique.
De l'art, pas L-A-R-D, hein, s'il vous plaît.
Non, mais du coup, l'émission s'appelle Dardar. Dardar, comment est-ce que tu l'orthographies, Madame Trottoir?
D'Artagnan,
elle va nous dire. Oh punaise.
Je m'attendais pas à cette question en fait, du coup j'avais pas préparé.
D'Art.
Ah oui, voilà.
Plus loin, D-A-R-D.
Ah, c'est ça. Que signifie le D-A-R-D?
Okay.
Bah, c'est libre à l'imagination de chacun, à chacune.
Bah, quand on avait imaginé un peu ce thème, je me souviens, on était au bar là-bas. Pas tout le monde, mais l'idée c'était de parler un peu des imbrications entre l'art et la politique. Et de comment en fait. Comment est-ce qu'on politise l'art ou non? Comment est-ce que on se sent vis-à-vis de l'art en tant que personne
sexe féminin,
assignée femme. Enfin là, en l'occurrence, ce soir, c'est notre composition. Et du coup, comment est-ce que on vit cet art ambiant qui est souvent généralement assez machiste et patriarcal. Comment on gère ça en fait dans notre rapport en général à l'art. Je voudrais pas tourner en boucle, peut-être que vu que j'ai plein de choses à dire,
je savais pas que j'avais pas toutes ces infos là.
Oui, mais c'est pour ça on a au fil des mois qui sont passés en fait depuis le moment où on a décidé de parler de ce thème, il y a eu d'autres inspirations, d'autres envies. Donc en tout cas moi, enfin, s'il faut parler de comment on a pris ce thème-là, moi, je l'ai pris comme ça. Et ce qui me donnait envie, j'avais envie de parler, en fait, du rapport que moi j'entretiens à la politique, à la politisation de l'art, et en fait de l'étouffement que ça peut me créer, ce truc-là, d'attendre que l'art corresponde en fait à mes envies et à mes aspirations de changement de société, etc. Et voilà, et qu'en fait, dans ma tête, je suis obligée de dealer avec l'art mascu, et qu'à des moments, j'ai envie de le faire. Parce que en fait, il y a aussi plein d'art mascu que j'aime, et j'ai envie de pouvoir expliquer pourquoi en fait, et qu'est-ce que intérieurement ça me fait vivre, et dans quelle complexité intérieure ça me met. Voilà, moi je l'ai pris comme ça.
Merci du partage. Ouais. Moi, je veux bien partager aussi. C'est, enfin, quand vous avez parlé d'art, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que en fait, j'ai eu un énorme déclic grâce à Angèle. Petite case dédiée, Angèle, c'était celle qui avait fait la chronique sur les. Dans la passion, qui avait écrit sur la pêche aux poissons.
Oui.
Et en fait, un jour, elle tenait une table. Enfin, elle était derrière une table. Et en fait, sur sa table, il y avait plein d'œuvres qui avaient été faites par des femmes. Et là, c'était vraiment l'art et cardiaque. Non, parce qu'en fait, le thème, c'est l'art, c'est pour ça.
Ça me choque.
Et donc.
C'est bien sorti.
Pas du tout travaillé.
Oh là là!
Et en fait, je me suis rendu compte que, en gros, ma représentation du monde et la représentation du monde de beaucoup de personnes, la manière de raconter l'histoire et toutes ces évolutions, elles étaient hyper ancrées par une vision hétéronormée et masculine. Et du coup, j'ai pu, pour celles qui me connaissent, faire des petites recherches internet, vu que c'est mon petit plaisir. Et en fait, j'ai appris que dans les collections de musées de France, genre les femmes, elles représentent 6,6% des artistes de la base de données des musées, quoi. Enfin, il y a 4% d'œuvres qui ont été faites par des femmes, quoi. Et du coup, je me disais, mais le nombre d'œuvres d'art qui ont été, tenues à l'écart, tu vois, des d'artistes femmes et queer qui ont juste pas pu être exposées, quoi. Et moi, ça m'a vraiment fait un gros choc. Voilà, c'est comme ça que j'ai été touchée par cette thématique.
Oui, encore une sphère dans la société dans laquelle nous sommes où les dominants prennent le pas.
Comment tu l'as pris, toi, le thème?
Moi, je vous avoue, moi, l'art, tout de suite, ça me met une violence symbolique assez conséquente dans le truc de je ne sais pas parler de l'art, en tout cas de ce qu'on imagine, de ce qu'est l'art dans une façon de la culture légitime. En fait, pour moi, l'art, c'est tout de suite les grands tableaux, les grands musées, savoir parler d'un film, savoir sortir un auteur d'un livre, savoir son histoire. Enfin, tout ça, c'est une culture qui, pour moi, que je n'ai pas. Enfin, chacun sa culture, et du coup, là vient mon point, c'est chacun sa vision de l'art. Et là, dans mon intro, je parlais de conceptualiser le monde, en tout cas avoir une force de création, de voir, d'idéaliser le monde, et du coup d'avoir cette création de son apport au monde. Et en fait, pour moi, ça, c'est l'art. Donc ça veut dire que l'existence en tant que même est l'art, et tout ce qu'on fait, c'est de l'art finalement. Et que du coup, j'en ai marre, j'ai plus envie de me sentir nulle, ou d'être sous-représentée par une culture fabriquée par des classes dominantes et par des genres dominants qui on sait très bien de quoi on parle. Mais voilà, c'est tout. C'est ce que c'était pas clair, mais
c'est très, très clair.
Oui. Toi qui disais que tu n'avais pas tes capacités intellectuelles au top, moi je trouve que c'est assez impressionnant.
Elle roule. Et puis t'es un peu... Enfin, après c'est aussi un mot délicat, le mot artiste, mais en tout cas t'es quelqu'un qui crée des choses... Et qui fait de l'art dans ta vie quotidienne.
Oui. Mais c'est là où la délimitation de qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que pas l'art, à nous de se réapproprier de quoi on parle.
And you, Lulu?
Comment dire? Je crois que quand on a évoqué ce thème-là, j'étais un peu perdue aussi. Parce que l'art, ça veut tout dire et rien dire, finalement. je pense que l'art, je savais pas. En fait, je suis venue sans chronique aujourd'hui parce que je savais pas par quel bout prendre le truc. Et voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre, à part que c'est un sujet... J'ai hâte d'écouter cette émission, j'ai hâte d'entendre cette émission, j'ai hâte de découvrir les chroniques de chacune pour savoir un peu vers où on va se diriger. Parce que voilà, on est toutes plus ou moins des artistes, j'ai envie de dire.
Mais oui, mais toi la première, tu vois. Enfin, toi la première, comme toi la première, comme toi la première, comme toi la première.
Bien sûr, hein, on est toutes... Et voilà, et donc j'ai hâte d'entendre tout ce qui va se passer.
Ouais. Et puis on est... Vas-y.
Moi, c'était pas mon thème au départ parce que effectivement, je suis un peu comme vous dans le sens où moi, je me suis sentie longtemps assez exclue de la culture dans le sens où je trouve que ça dépend tellement du milieu dans lequel on vient en fait. Et si on n'a pas eu des parents qui avaient une culture générale, ou qui se sont pas passionnés pour l'art, et ben en fait c'est difficile de rentrer en fait dans ces milieux-là. Et moi j'y suis entrée en fait par la danse, et je vois en fait que il y a des personnes autour de moi qui facilement se définissent comme artistes. Et moi, alors que ça fait une quinzaine d'années que je fais de la danse, j'arrive jamais à me dire « Ah, mais moi aussi, je pourrais dire que je suis artiste ou que j'ai une pratique artistique. » Et c'est assez fort, en fait, je trouve. Et je sais pas à quel point c'est un problème au niveau du... Comment dire, du niveau social, où on grandit, ou est-ce que c'est le fait d'être une femme. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qui légitime, en fait, de s'autoproclamer artiste, enfin c'est une question voilà.
Bah pour prendre la suite, moi j'ai l'impression que l'art nous berce quand même quotidiennement, enfin même de façon non conscientisée, enfin je veux dire tous et toutes on écoute la radio, on entend de la musique rien que de manière non choisie en passant dans un bar ou dans un lieu public où il va y avoir de la musique diffusée, en fait on y est confronté tous les jours. D'autant plus, avec le cinéma, l'accès aux séries, aux films, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose auquel on est confronté quotidiennement. Et de là, se sentir un peu actrice de cet art. En fait, j'ai l'impression qu'on a un peu bercé, conditionné aussi par un type de pratique qui est pas, enfin voilà, qui est encore majoritairement masculin ou en tout cas à la réalisation. Au montage, à la diffusion, c'est encore majoritairement masculin que c'est diffusé, donc avec aussi des codes et des messages dont on n'est pas maîtresse. Et du coup, je pense qu'il y a un long travail aussi de déconstruction en tant qu'adulte, même des ados, etc., où on se dit, ah mais tiens, mais tel message, ou le fait que majoritairement les musiciens visibles soient des hommes, et ça par quelques divas ou chanteuses qui sont en minorité et qui sont des femmes. Enfin, du coup, je pense qu'il y a... Personnellement, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte à quel point ça nous construit et ça va avoir de l'incidence dans nos vies quotidiennes et dans notre rapport aux autres dans la société, quoi. Donc, je pense que c'est hyper important de se réapproprier cette thématique. Donc, trop chouette qu'on puisse... faire
bravo
une émission spéciale.
Oui, bravo.
Bravo nous.
Il y a Marguerite qui est ressortie du coup d'Outre-Tombe.
Marguerite, oui, je suis une femme, je suis une artiste et je suis géniale. J'ai du génie. Et j'ai écrit l'histoire de l'amant de la Chine du Nord et de l'enfant. Et elle n'était pas encore là dans l'amant. Le temps manquait autour d'eux. Et j'ai écrit ce livre dans le bonheur fou de l'écrire. Et je suis restée un an dans ce roman, enfermée dans cette année-là de l'amour entre le chinois et l'enfant. Et je ne suis pas allée au-delà du départ du paquebot de ligne, c'est-à-dire le départ de l'enfant. Je n'avais pas imaginé du tout que la mort du chinois puisse produire la mort de son corps, de sa peau, de son sexe et de ses mains. Et pendant un an, j'ai retrouvé l'âge de la traversée du Mekong dans le bac de Vinh Long. Et cette fois-ci, au cours du récit, est apparu tout à coup, dans la lumière éblouissante, le visage de Tan et celui du petit frère, l'enfant différent.
Et je suis restée dans l'histoire avec ces gens et seulement avec eux. Et je suis redevenue un écrivain de romans.
Bravo.
Mais oui.
Merci, merci beaucoup Marguerite.
Je suis géniale. J'ai du génie. Je suis une femme, je suis une artiste. On pourrait dire écrivaine.
On pourrait dire.
Par exemple. Et tu n'as pas besoin d'emprunter un nom masculin pour faire valoir tes écrits, n'est-ce pas?
Oui, mais en 1991, écrivaine n'était pas encore admis. Mais j'avoue que maintenant que je suis revenue parmi vous, écrivaine autrice me va tout à fait.
Alors, Marguerite, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué?
Parfaitement, les choses évoluent grâce à nous, grâce au travail de femmes de génie comme moi. Les femmes prennent leur rôle dans la politique. Moi qui ai interviewé des hommes aussi étonnants que Platini, par exemple, un joueur de football. Bien, écoutez, il n'avait aucune conscience politique à son époque, mais il venait tout de même d'un milieu défavorisé. Et il a pris conscience, en parlant avec moi, une femme de génie, tout ce qu'il y avait d'extraordinaire parmi la gente féminine. Et je vous encourage, mesdames, je vous encourage, mesdemoiselles. Bien sûr, ces mots sont surannés, mais moi, je viens d'une autre époque. Hein. Oui, bon, on rit, mais petite, vous savez, j'ai connu les grandes luttes. Hein, j'ai connu les grandes luttes.
Merci pour ton inspiration.
Je vous remercie de m'accueillir, Adi. Je trouve que c'est un endroit assez exceptionnel.
Marguerite, première suffragette qu'on accueille dans le Diwa. Nous sommes très fiers. Nous allons passer... Alors, moi, peut-être que j'avais une question avant de passer à la première chronique. Si on se définissait comme artistes les unes l'un après les autres, c'est ce que ça vous dirait? Alors là, il y a une écrivaine. Est-ce qu'on pourrait peut-être dire un mot sur notre expression indive?
Musicienne.
Donc, Marie Anonyma.
Musicienne.
Moi, je serais une touche à tout.
Une touche à tout.
Une touche à tout. Une artiste touche à tout.
Noah.
Une danseuse de la vie.
Et moi, je crois que je serais une chanteuse. Une diva.
Oh, c'est dur. Ouais, je serais une bricoleuse.
Mais oui.
Ah oui, Marguerite est écrivaine.
Marguerite est dialoguiste. Marguerite est dramaturge. Marguerite est cinéaste. Je vous rappelle que Marguerite est avant tout résistante.
Et vous?
Je serais circassienne.
Écoute RDIWA 107.5 FM ou le 101.7. Tu écoutes Les Filles de Joie, épisode numéro 6. Oh, elle m'en dit 4. Épisode numéro 6 d'Ardard. Ce soir, des Madame Trottoir, des chroniques, des textes, des musiques. Et qu'est-ce que ça vous en dit de commencer par vous, Madame Trottoir?
Vous regardez moi.
Que vous.
Alors, ça fait très longtemps quand même. Bon alors, je vais vous raconter l'autre soir.
Alors.
Non mais ça fait longtemps, du coup j'ai encore un peu ce petit crépitement en moi de stress, mais ça va le faire, je vais juste encore perdre 4 litres de sueur et incommoder mes voisines. Donc, à l'image du thème de cette émission qui est donc l'art, j'ai eu envie de faire de cette chronique une œuvre d'art. Après, à voir si c'est pas de l'art ou du cochon. Donc, comme Majdouline, bah, vous avez le droit de rire entre temps. Donc, comme Majdouline, c'est vrai que directement, je me suis dit que je pouvais pas parler de ce thème qui fait peur, en fait. Et en plus, j'ai l'impression que j'y connaissais rien. Donc, j'allais faire des grosses bourdes. Parce que mes expériences dans le milieu artistique n'ont pas toujours décollé. En fait, j'ai fait des clitoris en argile comme un petit personnage qui est allongé dans le bain. Et le bain en forme de vulve. Et j'ai appelé l'œuvre Bain chaud. Et dans ma tête, j'étais déjà l'artiste de l'année. J'allais vendre sur les marchés, sur Internet, et ça allait trop marcher. Mais souvent, j'ai l'art de me faire des films. Et souvent, je prépare des interviews comme si j'allais parler à des journalistes avant même d'avoir créé plus que deux œuvres. Et du coup, c'est plus facile à faire dans ma tête que dans la vraie vie. Et il faut dire que ma mère, en fait, elle est très soutenante et elle a toujours été très, très fière de moi. Notamment quand j'ai su jouer de la flûte avec mon nez à l'âge de 17 ans. Un vrai prodige. J'ai aussi transformé une chanson de Henri Salvador en chanson paillarde quand j'avais 10 ans. C'est un de mes plus grands traumatismes et ça m'a permis d'écrire mon premier stand-up qui a été écouté et lu par deux personnes. Oh. Je suis passée dans l'art de la digression. Donc arrêtons de raconter sa vie et on va parler plutôt de celle des autres. Donc moi c'est Madame Trottoir, pour celles qui connaissent pas. Armée de mon micro, j'arpente les trottoirs physiques et virtuels, aussi appelés internet, à la recherche de la perle d'art. Moi je sais pas si c'est de l'art ou si c'est lourd là, vous me dites. Cette fois, nouvelle arrivée.
Il y a quelqu'un qui arrive dans le studio.
Il manquait justement une présence.
Ne te laisse pas perturber Madame Trottoir, nous étions
je
tellement...
Reprends. Dans ma chronique, c'est dans... ça.
Ah. Tu disais c'est si c'était lourd ou si c'était de l'art.
Voilà, je n'hésitais pas à faire des petits gestes, hein, si c'est trop lourd. Donc cette fois, j'ai décidé de refaire le trottoir pour trouver des réponses toutes floues à mes questions trop vagues. Et la question, c'était de savoir si les personnes se rappelaient de la dernière œuvre d'art qui les a vraiment touchées et bouleversées. Et en fait, moi, avant, je pensais qu'une œuvre d'art, ça devait avoir un but. Et je me suis rendu compte que j'étais très utilitariste pour une écolo qui a été beaucoup au RSA. Et du coup, pour moi, le but, c'était dénoncer quelque chose et dire quelque chose. Et en fait, ces micro-trottoirs, ils m'ont fait beaucoup réfléchir. Donc, je vais passer le premier extrait.
Un des tableaux qui m'a le plus marqué, c'est, je crois que ça s'appelle La contrebasse de Nicolas de Staël. C'est un tableau gigantesque avec juste une scène, une contrebasse, un piano et je sais plus quel instrument. Il est gigantesque, il tient tout un pan de mur gigantesque et on est. Ça m'accompagne, j'y pense souvent. Je pense souvent à ce tableau. Peut-être que ça amène à plus être observateur de la peinture, d'essayer de déceler, de retrouver cette impression de waouh, de claque dans la gueule quand on regarde, de chercher la claque dans la gueule quand on regarde des tableaux.
Il va être un tableau, mais le truc c'est que je.
Petit bug encore. Et en fait, ce qui était fou quand elle m'a raconté ça, c'est qu'elle avait vraiment de l'émotion dans les yeux. Et c'était fou, en fait. J'avais l'impression d'être transportée avec elle et de voir le tableau gigantesque, quoi. Et après, elle m'a montré plein d'œuvres de cette personne. Et c'était fou. Et puis moi, j'étais un petit peu gênée parce que le dernier tableau qui m'a émue, c'est le tableau des 400 chattes. Qu'on n'était pas sur le même registre. Je ne sais pas si vous connaissez ce... En gros, c'est 400 sculptures qui représentent des femmes de 18 à 76 ans. Et du coup, il y avait des filles, des mères, des jumelles, des transsexuelles, des femmes qui allaient avoir un enfant. Et en fait, il a moulé le vagin des femmes, quoi. Et ça permet de voir que sur les 400, il n'y en a pas une qui se ressemble. Et je sais pas, ça, je trouve qu'il y avait quelque chose de très fort là-dedans. Voilà, donc c'était ma première. J'ai encore digressé. Bref, tout ça pour dire que ça a été ma première claque, justement, cette femme qui me dit que... Bah voilà, elle a eu beaucoup d'émotions en regardant un tableau qui représente une scène, quoi. Et il y a une autre personne qui m'a aussi beaucoup touchée.
Ça devait être un tableau, mais le truc c'est que je sais pas comment il s'appelle.
Ouais, c'est pas grave. Hein.
Voilà.
Et ça t'a fait quoi?
J'étais émue. Enfin, je me disais que la vie était belle en fait et que c'était même pas que la personne avait fait du beau travail, c'était juste que. Ouais, je trouvais ça me faisait des émotions qui me faisaient me rendre compte que la vie était belle, que ouais, c'est ça en gros. Hein.
La cathédrale de Léon.
Et le c'est ça en gros, moi ça m'a mis un peu une claque parce que je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est vrai que ça peut être suffisant aussi juste de se dire, la vie elle est belle quoi. Et ouais, ça va pas forcément, je sais pas, changer complètement toutes mes représentations, mais il y a ça qui se passe quoi. Et en fait, ça a continué comme ça. Toutes les personnes que j'ai interrogées, elles m'ont aussi parlé de ce que ça leur faisait au niveau corporel.
La cathédrale de Léon, en D'accord. Espagne, c'est la plus belle. Hein.
Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle a d'incroyable ?
Ben, c'est les vitraux. Okay. Il y a 2800 mètres carrés de vitraux.
Et du coup, j'imagine, avec des couleurs partout.
Ah ouais, toutes les couleurs. Le cœur était superbe.
Et quel effet ça fait, du coup, quand vous rentrez dans la cathédrale ?
Ben, ça donne un peu des frissons. Hein. C'est vrai que c'est magnifique.
Donc, ça m'a fait beaucoup rire parce que, en fait, il y avait vraiment de tout entre des tableaux et des vitraux. Et il arrive quand même à dire que ça lui fait des frissons avec beaucoup d'enthousiasme. Et il y a une autre personne qui a eu aussi des frissons, mais pour complètement un autre genre.
Bah là, c'est Diana Rad. Je ne sais pas si vous la connaissez, une roumaine qui a une voix extraordinaire. Et elle est passée là dernièrement sur Facebook. Et vraiment, elle a une voix extraordinaire.
Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous l'écoutez ?
Des frissons.
Ah oui.
Des frissons et puis même envie de pleurer tellement que c'est touchant. Sa voix. Sa voix surtout.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette salle de concert Facebook. Mais je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'aille voir leur programmation. Non, je me moque du coup, mais pareil, elle avait beaucoup d'émotions en m'en parlant. Et en fait, c'est marrant parce que moi, quand je posais mes questions, j'avais vraiment envie de dire, mais qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que ça vous a complètement changé ? Et tout le monde me disait, mais en fait, juste, ça me fait des frissons et ça me fait des trucs cool. Mais... Et voilà, du coup, ça m'a vite remis en place. Et notamment la dernière, où elle me parlait des photos d'animaux qu'elle avait vues au Festiwild.
Est-ce que c'est l'extrait 3 bis chaud au cœur ?
Oui, exactement.
Non, il n'y a pas de son.
Ah mince, tard. Bon bah du coup elle me disait juste, mais en fait ça, je lui disais mais qu'est-ce que ça vous fait ? Elle me fait mais ça me fait rien, ça me fait juste chaud au cœur.
Tu me fais chier avec tes questions là.
Mais politiser les choses, merde ! Et du coup, bah, je sais pas, moi, ça m'a vraiment remise en question. Et je pense que j'ai... Ouais, vas-y.
Bah, en même temps, je comprends trop parce qu'à chaque fois que les personnes me disent qu'elles ont des frissons en voyant quelque chose, j'ai jamais compris parce que moi, physiquement, ça me crée pas du tout des frissons. Mais par contre, ça me crée chaud au cœur, je pense.
Ah ouais. Bah, ouais. Ça m'a déjà fait des frissons en écoutant aussi des sons. Après, j'ai écouté la personne. Moi, ça m'a rien fait du tout. Mais bon, chacun, c'est cool qu'on soit touché par différentes choses, quoi.
Moi, j'ai des frissons que quand on me fait un bisou dans le cou.
Et si qu'on me souffle dans l'oreille, non ?
Ouais, ouais. Ça, c'est ta grande tare.
Et en fait, j'ai compris mon problème avec cette dernière personne.
J'ai parfois l'impression que l'œuvre d'art, les œuvres d'art humaines, sont comme la cocaïne du peuple. Et qu'elles nous font passer à côté de l'essentiel qui est cette œuvre d'art divine dans laquelle dont nous faisons partie. Nous sommes partie intégrante de cette immense pièce de théâtre qui se joue au quotidien et dans laquelle nous sommes acteurs.
Et voilà, je pense en fait que mon côté addictif ressort même avec l'art, où en fait... voilà, j'attends trop de l'art, que ça me comble mes pulsions, etc. Donc c'était quand même intéressant. J'ai pris ma journée le lendemain pour réfléchir justement à cette phrase. Voilà. Mais du coup, je me suis quand même dit que l'art, ça pouvait transformer. Et ce qui est marrant là, c'est que chacun parle d'œuvres différentes. Et cette dernière personne considère du coup les livres de développement personnel comme de l'art. Et lui, ça a complètement changé sa vie.
C'est vrai, il y a eu un gros gros impact sur ma vie. Du jour au lendemain, j'ai quitté mon ancienne vie de sédentaire. Donc maintenant, ça fait 6 ans que je vis en camion. Et c'était la première fois de ma vie que je poussais la porte d'une librairie. Sans savoir, j'ai été au rayon ésotérique. J'ai pris le premier bouquin, je n'ai même pas lu la synopsie. J'ai lu « Demandez, vous recevrez », ça m'a parlé, j'ai dévoré ce bouquin et il a eu un impact très puissant sur moi. Ouais. Okay. Très très puissant.
Are you listening ? C'est incroyable ce que ça peut faire, les librairies, tous en librairie, on va changer le monde. Et voilà, moi ce que j'en retiens, c'est qu'en fait l'art qui nous transforme, c'est notre quotidien. Et à écouter toutes ces personnes, je me rends compte que la créativité, c'est un truc qui vieillit pas. C'est un truc qui nous transforme, un truc qui fait profondément du bien, qui nous fait sentir humaines et capables. Donc même si vous créez simplement un bonhomme de neige avec un bouchon de liège, créons seul ou à plusieurs et faisons tomber sur la planète un vent d'œuvre qui décoiffe le système.
Oh yeah. Woo! Wow. Approche.
Tu sens mon talon aiguille ? Je n'ai qu'un petit coup à donner. Ça fait de l'effet, hein ? Lèche maintenant. Lèche, c'est un ordre. Non, fais attention.
Ce serait peut-être l'occasion de présenter la nouvelle personne qui est arrivée dans ce studio. Comment est-ce que ça va ?
Ça va pas mal, je suis bien contente de vous retrouver.
Oh, ouais. Oui.
C'est quoi ton nom?
Mon nom c'est Vera, ce soir, ouais.
Et Vera, tu nous as préparé un petit truc aussi,
ouais.
Qui arrivera peut-être en fin de...
Tout à l'heure.
Tout de suite, nous passons la parole à Noah.
Et oui, alors moi j'avais envie de vous parler de l'invisibilisation des femmes dans l'art et la culture. Et d'ailleurs, je me sens un peu tout émoustillée là, de parler comme ça à la radio. Moi, j'ai pas tellement l'habitude. Et oui, en tant que femme, prendre la parole en public et se sentir légitime, voilà, tout ça, ouf, c'est compliqué. Moi, j'ai grandi à l'école publique et dans les cours d'histoire, j'ai peu entendu parler des femmes. Encore moins de l'histoire des femmes dans l'art. Je sais pas pour vous, mais moi, en dehors de quelques références, les femmes dans l'art, bof. Voilà, je sais pas, parmi vous peut-être, chères auditrices, y en a peut-être qui connaissent les noms de femmes, architectes, compositrices, artistes, cinéastes ou écrivaines, qui ont participé à l'édification de notre culture. J'avoue que tout dernièrement encore, et pourtant je suis née femme, je m'étais pas vraiment posé la question en fait. J'ai regardé des milliers de films, hein, comme tout le monde, surtout à mon âge. Mais en tout cas, je m'étais pas vraiment posé la question des femmes, par exemple, dans le cinéma. Et heureusement, j'ai des amis, IES. Et il y a environ 2 ans, il y a une copine qui m'a parlé du test de Bechdel. Alors, qu'est-ce que c'est le test de Bechdel? Et ben en fait, c'est un peu issu d'une BD. Enfin, c'est Alison Bechdel, qui est une dessinatrice de BD, qui a dans sa BD Lesbienne à suivre, qui a formulé 3 règles toutes simples. Donc la première, le premier critère, hein, c'est que vous regardez un film, il doit y avoir au moins 2 femmes, dont on connaît les prénoms ou non, voilà, qui sont dans le film, hein, dans l'œuvre. Le deuxième critère, elles parlent ensemble. Voilà, alors là déjà ça devient un petit peu plus compliqué. Hein. Bon, déjà c'était assez rare de voir 2 femmes dont on connaît les noms dans un film. Et le troisième critère, et là c'est très très dur, elle parle de quelque chose qui n'a aucun rapport avec un homme. Bon, bref, je sais pas, mais ça arrive pas souvent. Et bien évidemment, ce test, il passe quand même sous silence un peu les questions de la diversité des femmes, leur rôle dans l'histoire et leur façon de se montrer, enfin ou de les montrer. Mais je trouve qu'il reste quand même assez révélateur. Et je me suis rendu compte du coup que dans mes films de référence, pendant très longtemps en fait, c'était surtout des héros, les hommes. Voilà, notamment et aussi dans ma vie de tous les jours. Enfin voilà, mes citations, elles sont souvent empruntées à des hommes. Et la majorité de mes lectures étaient masculines. Voilà. C'est juste pour se rendre compte en fait, le travail des femmes artistes, il a souvent été ignoré. Les femmes elles sont rares en fait dans les domaines qui sont exposés, qui sont à l'extérieur, enfin la vie mondaine, la célébrité, ou sinon c'est souvent un peu, vous voyez des femmes un petit peu plantes qui font un petit peu décoration. Voilà. Sinon, elles sont pas très présentes. Du coup, moi, j'ai l'impression que ça nous rend toutes et toutes ignorantes d'une partie de notre patrimoine culturel et artistique. Du coup, j'ai regardé un peu les chiffres. Et là, il y a dans les collections du Louvre, là, ils ont lancé un nouveau truc, une base de données qui s'appelle la base de données Joconde. Et donc, elle répertorie les œuvres des musées français. Et ça permet notamment de comptabiliser les œuvres dans les collections du Louvre. Et ça, donc, ça a été fait entre... c'est une période qui est assez longue, qui va de l'Antiquité au milieu du XIXe siècle. Et là, attention, les chiffres, sur 5387 œuvres, on a 42 peintures exécutées par 28 femmes, ce qui fait un petit pourcentage à 0,78%. Voilà. Ça en dit déjà assez long. Dans la musique classique aussi, il y a seulement 1% des œuvres qui sont jouées en salle, qui sont faites par des compositrices, enfin femmes du coup. Voilà. Et entre 1946 et 2017, au Festival de Cannes, la part des réalisatrices dont la sélection officielle n'a jamais dépassé les 20%. Et sachant qu'il y a seulement 7% des grands prix qui ont été remportés par les femmes. Voilà. Et moi, tout dernièrement, j'ai une copine qui m'a dit qu'elle avait décidé de lire que des œuvres de femmes. Et c'est vrai que depuis, à chaque fois que je regarde un bouquin, je regarde bien qui l'a écrit.
Ça me fait penser à Alice Coffin quand... Je sais pas son pronom vraiment, mais en tout cas quand cette personne a dit qu'elle allait lire que désormais des livres écrits par des personnes non hommes cis, ça a fait un scandale d'État. Mmh. Et c'est quand même grave quand même de se sentir en danger comme telle, alors que... Oui, Madame Trottin.
Non, pardon, ça n'a rien à voir. C'était juste pour célébrer une petite victoire. C'est que en mai 2022, en Angleterre, il y a le Queer Britain. C'est le premier musée qui célèbre l'histoire et la culture queer. Et je sais pas, juste ça m'a fait du bien de voir ça entre plusieurs chiffres un peu.
Moi,
j'avais
un peu envie de réagir parce que justement, dans toute cette thématique, moi, c'est ça qui me causait problème, c'est que en fait, moi, j'ai pas vraiment envie de faire ce choix. Aussi beaucoup parce que souvent, du coup, quand je vais vers des artistes femmes, eh ben, ça vient me remettre à la gueule très généralement cette question-là, en fait, la question de l'oppression du genre. Et en fait, des fois, ça me fatigue, quoi. Et après, je dis ça, mais je veux dire, il y a plein d'autrices, de musiciennes, de ce qu'on veut, qui parlent pas du tout de ces questions-là. Enfin, c'est très riche, c'est très varié, c'est très vaste. Voilà, mais il y a beaucoup ça. Et je sais que moi, c'est quelque chose que je vis pas mal dans le rap, par exemple, où j'ai du mal, en fait, à trouver des artistes aussi qui, d'une certaine manière, ont les codes du rap sans être les codes du rap féministe, parce qu'en fait, elles sont des femmes. Et c'est tout ce truc de politiser les choses, et que justement, moi, il y a des moments où, en fait, je considère que l'art, ça représente aussi... une certaine facette de cette société, et je sais pas si j'ai vraiment envie de demander à l'art qu'il représente ma facette de la société que moi je voudrais, que je rêverais en fait.
Donc tu rêverais d'un art qui soit pas forcément politique?
Bah, l'art il est politique par lui-même en fait, mais je trouve ça différent de lui demander d'être politique par essence, tu vois, enfin qu'il soit presque uniquement politique politisé ou juste de le prendre comme il est. Après, c'est pareil, en fait, quand on prend les choses comme elles sont, c'est aussi tout autant violent. Enfin, je reprends l'exemple du rap, en fait. J'ai du mal à trouver des artistes où j'ai moi-même du mal à déconstruire les codes du rap, en fait, en m'ouvrant à du rap fait par d'autres personnes que des hommes. Enfin, voilà, et je trouve que des fois, faire cette démarche-là, je trouve ça violent. Et du coup, passer son temps à écouter du rap féministe, en fait, je trouve ça violent. Mais à l'inverse aussi, c'est violent de passer son temps à écouter du rap de mascu parce que c'est hyper chouette. Et puis, il y a un moment, il y a une phrase, en fait, elle te casse en deux parce que juste, elle te dégoûte, quoi. Mais du coup, enfin... Je capte ta question. Enfin, si pour moi il faut, enfin, ça a plus de sens pour moi quand l'art est politique, quand il se veut politisé. Mais j'ai pas envie que ce soit tout le temps ça et que j'oublie en fait les autres choses dans le monde, que j'oublie dans une, enfin, que je vive dans une espèce d'illusion d'un monde safe qui ne l'est, enfin, en fait, il est pas safe quoi, ce monde. Il y a des oppressions partout et. Et des fois, les masculins ou les dominants, je vais lire leur art, écouter leur art, voir leur art, et en fait, ça va me faire réfléchir. Et je trouve qu'en fait, ce qui est bon, c'est d'avoir une autonomie là-dedans intellectuelle, c'est d'arriver à se dire qu'en fait, on peut disposer des clés pour analyser les choses sans cautionner, c'est-à-dire pas bouffer l'art comme un truc qui fait partie de nous, enfin, mais d'arriver à avoir un recul et un regard critique dessus.
Est-ce que Vera, tu vas nuancer?
moi, j'allais plutôt dire que Virginie Despentes, elle est vachement dans son sens et qu'en fait, c'est assez étonnant parce que elle peut avoir des discours tellement radicaux sur plein de sujets et en fait, sur ce sujet de l'art, elle est hyper ouverte. Elle met vachement en valeur le fait de lire plein de choses différentes. Elle dit que elle, c'est les pires masculins qui ont forgé son style en fait par la lecture, etc. Et du coup, c'est une position que à laquelle je m'attendais pas en fait quand j'avais écouté. Enfin, je crois que c'était le grand entretien sur dans les coups sur la table et puis elle en reparle à plusieurs reprises et c'est hyper rigolo je trouve parce que du coup elle dit en fait ce qui est important c'est juste qu'on est à disposition différents types de regards. On peut pas genre condamner tel regard. Par contre, le fait que ce regard soit tellement dominant tout le temps partout, ça c'est insupportable et donc il faut écrire et donc il faut créer et donc il faut subvertir ce monde artistique pour justement prendre les armes artistiquement en parlant. Mais je trouve que c'est intéressant aussi comme posture. Après je pense que enfin on a totalement le droit d'avoir des phases. Enfin moi j'ai passé effectivement 10 ans à pas lire de d'hommes cis et en fait je m'en porte très très bien et quand les gars me disent mais du coup enfin il y en a vraiment beaucoup, t'en as pas marre au bout de 10 ans? Et je suis là genre mais putain, chaque jour je découvre une autrice incroyable, chaque jour enfin il y a tellement de potentiel mais genre de dingue, et c'est juste fou que ce soit pas plus valorisé. Bon après dans la littérature c'est quand même un des arts qui est le plus peut-être où les femmes sont le mieux représentées parce que ça a toujours le roman est vachement lié au genre féminin parce que du coup les femmes ont toujours lu des romans et tout ça, mais je pense que dans plein de domaines ouais c'est chouette aussi de sentir cette énergie là quoi.
Oui, et puis Vera, on a découvert toutes les deux un film qui s'intitule Les Marguerites, ça tombe bien parce que ce soir Marguerite est là, mais tu peux nous en parler parce que je trouve ça très important. J'ai oublié le nom de cette réalisatrice, je sais que tu as fait une remarque très intéressante par rapport à ce film, et il faut savoir que Milos Forman, qui a fait la même école que cette réalisatrice dont tu vas nous parler dans quelques secondes, a été totalement inspiré par la fameuse scène où les deux Marguerites, les deux filles montent sur la table en balançant toutes les assiettes, tout ce qu'il y a sur la table de fête, je sais pas si tu te souviens. Et donc, quand tu connais Milos Forman, qui est hyper connu, il a complètement repris cette inspiration de cette image, cette fête, de ces fameuses marguerites qui se disent qu'est-ce qu'elles disent, les marguerites?
Alors, tu me compléteras parce que voilà, tu me surprends. J'avais pas prévu le laïs. C'est une réalisatrice qui s'appelle Vera aussi, Vera Tchitilova, je crois. Et en gros, c'est une espèce d'antidote. Donc, c'est un film des années 60. C'est une réalisatrice de République tchèque. C'est en plein dans le printemps de Prague. C'est la folie de contestation, en fait, par rapport au... de manière générale, en Occident, par rapport au tout ce qui est autorité, hiérarchie, etc. Mais aussi, du coup, de l'autre côté de l'Europe de l'Est, c'est aussi la contestation du régime soviétique, etc. Et elle sort ce film qui est un peu genre son grand film, je crois que c'est 67 la date, et ça s'appelle Les Petites Marguerites. C'est ressorti cette année ou l'année dernière au Festival de Cannes, ils l'ont restauré et tout, du coup c'est sorti là en salle, enfin c'était possible de le voir il y a pas très longtemps en salle. Et en fait c'est un peu un antidote à la nouvelle vague, en fait. C'est vraiment un antidote féministe à la nouvelle vague hyper mascu. Et c'est hyper intéressant parce que elle prend vraiment des personnages, donc c'est deux femmes, déjà. Donc, test de BGL réussi. Et en fait, ces deux femmes, elles jouent vachement avec leur sexualité, avec leur corps, avec la provocation, avec des hommes vieux dont elles utilisent, en fait, c'est un peu l'anti-Lolita. Enfin, c'est Lolita, mais vu du point de vue de Lolita, quoi. C'est hyper intéressant. Et voilà. Je sais pas ce que tu voulais dire d'autre par rapport à ce film, mais effectivement, il est assez marquant, ouais.
Et ben, c'est deux poupées qui jouent à la dépravation. Voilà.
Est-ce que je peux juste compléter ce moment d'échange sur l'art pour notifier un podcast qui est connu sans doute, mais Vénus épilait-elle la chatte. C'est un podcast qui est dédié du coup à l'art, à la place du genre à signer femme dans l'art. Et il y a un épisode que j'ai écouté tout à l'heure. Quel est son nom? Je me souviens pas, mais en tout cas, il parle de Mary Richardson qui en 1914 a lacéré un tableau qui était représentatif
du regard masculin qui peint la femme pure adolescente blanche. Et cette femme, cette suffragette, du coup, Richardson l'a complètement appris en sabre et l'a... Et la destroy pour revendiquer le droit de vote en Angleterre. Et voilà, c'est un épisode, c'est un des épisodes que je recommande énormément, qui parle de ça.
Ça fait la boucle avec, on avait parlé de cette histoire de Richardson qui lacère le nu de Velázquez dans le truc sur le nu qu'on avait fait il y a quelques semaines, quelques mois.
Exact. on vous laisse avec une chanson, on se retrouve juste après.
Give me heebie-jeebies, got me rolling around the city with the ass and coughing like, whoa, got a back up off me, got weight, bitch, back up off me, demons, monsters, bitches, nanas, all y'all niggas better back up off
y'all
me.
Y'all to the side, I did my time, y'all just had all of y'all hands on what's mine, bitch, I rebuke you, devil's a lie, I got the wave, you get washed by the tide, just got the nine, with that extension, I might just point at your shit for attention, nigga, it's why, you gotta die, I gotta do what it takes to survive, yeah,
ever since I was a little girl, yeah, I knew that I had the potential to be a killer, nigga, what the fuck you thought, yeah, that part of the story's essential, all from my mental, y'all can take what I've been through, paid for all incidental, yeah, silly niggas, you were thinking I was dirty, but I saw it, now y'all gon' wish that I died in a tight board, y'all gon' wish you could hide when the light's on, came back on them with the iron and a whiteboard, came back for it, cause it's mine and it's not yours, miss me, aha, I'm in a light
all these
form.
Labels, all these fables, all these Cain and fucking Abels, all you bottom feeding bitches, Dylan scraps them under tables, really didn't think that I would get it, thought a little pressure was gonna push me to the limit, bitch, I died, bitch, I cried, then I rose up, cause the suffering was written, now I'm dead, any motherfucker feeling brave to make my day, nigga, just make it, cause I got Haitians, Asians, Jamaicans, anxious, shooters, movers, angels, waiting, fear, power, patience, greatness, point blank, peer, nigga, confirmation, me and God had a real conversation, he said, get back on the occupation, I went into the lock and the combination, now I'm telling everybody to drink, now I'm telling everybody to keep, now I'm telling everybody to scheme, y'all niggas about to die cause of me,
I'm like, hold up, bitch, you gotta back up off me, give me shitty feet, get the trap up off me, all y'all niggas give me heebie-jeebies, got me rolling around the city with the axe and coffin, like, whoa, gotta back up off me, got way, bitch, back up off me, demons, monsters, bitches, daddy, all y'all niggas better back up off me,
to the side, I did my time, y'all just had all of y'all hands on what's mine, bitch, I rebuke you, devil's a lie, I got the wave, you get washed by the tide, just got the nine, with that extension, I might just point at your shit for attention, nigga, it's why, you gotta die, I gotta do what it takes to survive, wait,
de joie sont en direct dans tes oreilles. Nous parlons de l'art ce soir et je laisse la parole à Marie Nima.
Bonsoir, bonsoir. Eh bien, on a déjà pas mal parlé, j'ai l'impression, de comment l'art peut nous façonner, un peu en tant que spectatrice, fascinatrice, auditrice. Et moi, il y avait un sujet que j'avais un petit peu envie d'aborder, c'est aussi en tant qu'actrice, enfin, notamment un des prismes que j'aimerais bien aborder, c'est le dans la musique. Et notamment un truc qui m'a assez choquée, c'est la place des musiciennes, musiciennes, chanteuses dans les scènes ouvertes et les jam sessions. Et du coup, c'est pas tant une chronique qu'une amorce de discussion que je voulais lancer ce soir. C'est que, bon, alors personnellement, je suis musicienne, j'ai déjà participé à pas mal de jam, de scènes ouvertes, etc. Et majoritairement, la scène est occupée par des hommes. Alors que, de ma propre expérience, bah, je connais plein de femmes musiciennes et même voilà, avec un talent non contestable. Et, Et voilà, l'occupation de cet espace majoritairement masculin, ça interroge. Ça interroge aussi même, enfin, professionnellement, en fait. J'ai l'impression qu'en tant que femme, on peut aussi se mettre des freins. Enfin, c'est vrai que, enfin, sans rebombarder des chiffres, hein, il y a que un tiers des femmes qui, voilà, qui vivent professionnellement contre deux tiers des hommes, alors que, de mon expérience, quand t'es en école de musique, en conservatoire, enfin, au départ, c'est plutôt, enfin, c'est quand même assez équilibré, et c'est plus dans la professionnalisation, et à partir du moment où ça commence à être rémunérateur, et à partir du moment où tu commences à être visible aussi en tant qu'adulte et en tant qu'artiste qui s'affirme, que là, la différence, elle va se jouer. Et j'ai aussi vécu une scène ouverte sur une scène parisienne qui s'appelle La Gare, où j'ai... Pour ne pas les dénoncer, mais un peu quand même, où j'ai été exclue de scène, ayant voulu faire une espèce de hold-up avec une amie musicienne. Alors, on était certes d'un niveau très semi-amateur et assez sous, mais ce sur quoi on voulait un petit peu attaquer les choses, c'est que la scène était soi-disant ouverte, et en fait, c'était vraiment... l'avant-scène, le tremplin pour les jeunes professionnels des conservatoires nationaux et régionaux qui étaient sur les scènes jazz. Et voilà, enfin, dans le jazz, il n'y a que 10% de femmes. Et du coup, en fait, là, la place n'a pas du tout été laissée. On nous a coupé la sonorisation. Enfin, c'était vraiment extrêmement violent. Et bon, là, bon, c'est une scène extrêmement violente dont j'ai le souvenir. Mais de manière générale, je me suis retrouvée plein de fois sur des scènes ouvertes où t'es la seule meuf. Et pourtant, dans la salle, tu sais qu'il y a d'autres meufs qui sont musiciennes et qui auraient des choses à partager. Donc voilà, je voulais un peu lancer ça en mode, je sais pas si c'est essayer de déchiffrer ensemble ou essayer de se donner un peu des tips sur comment on peut intervenir. Enfin, je sais pas si vous allez régulièrement justement dans des bars ou dans des lieux où il y a ce genre d'espaces qui sont créés, mais un peu c'est voilà semi-discussion comment déconstruire ça et comment peut-être on peut se réapproprier cet espace.
Majdou, elle va dans des jams.
j'ai été dans les jams, mais enfin moi je pense, enfin ça me fait juste penser à une enquête sociologique que j'avais fait, enfin que j'avais fait n'importe quoi, que j'avais étudié.
C'est pas moi qui l'ai fait.
Majdou, c'est réapproprie-toi.
Et en fait le sociologue, je me rappelle pas, étudiait du coup les enfants dans les écoles de musique et le choix des instruments qu'elle faisait. Et les petits garçons tendrement allaient vers les instruments qui faisaient beaucoup de bruit, la batterie, des gros instruments, les instruments à vent, les cuivres, tout ça, etc. Et les filles étaient tout de suite à la harpe, au violon aigu, tout ça.
La flûte traversière.
Non mais voilà, donc déjà ça image beaucoup l'occupation de l'espace sonore. Ensuite, tu as parlé de l'artiste rémunérateur, enfin de l'activité artistique rémunératrice. Et pendant la coordination féministe, on a beaucoup parlé de ça, du monde professionnel et du coup de l'enjeu d'être une femme et se lancer dans ses activités. Et en fait, elle se fait vite rattraper par d'autres réalités. Oui, les jams dans le Diwa, pour moi, c'est un scandale. J'enchaîne sur ça parce que en observant les soirées qui se prolongent d'ailleurs, plus elles se prolongent et moins il y a de femmes. Et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup au début, mais alors à la fin, c'est clairement... Et en plus, du coup, enfin toi, t'es là et en fait, t'es la seule à peut-être t'as envie d'y aller. Mais en fait, t'es là, t'es toute seule. Et du coup, t'es pas validée. Il y a un truc de... Tu te fais bouffer. Et on dit que le patriarcat n'est pas fini du tout parce que juste non mais pas, ça, c'est une image, ouais, breaking news, c'est que un homme qui rentre dans une salle où il y a que des femmes, il sera ravi. Le contraire, je vous laisse imaginer. À partir de là, ben voilà, ça illustre la jam pour moi.
Après, on m'a déjà proposé justement, enfin il y a quelques jams, notamment à Châtillon, on disait mais allez. Enfin, vous voulez pas faire quelque chose et tout. Enfin, moi, je fais pas d'instrument, mais parfois, je chante. Mais en fait, j'ai trop peur d'être ridicule et je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas, j'aimerais bien être inspirée, enfin, avoir la même confiance, justement, de dire, bah, en fait, c'est ridicule ce que tu fais. Parce qu'il y a, en fait, il y a des gars qui chantent, c'est horrible.
C'est ridicule.
Mais, je sais pas, ils prennent le micro pendant 30 minutes et ils osent dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Et après, je sais pas, moi, j'ai juste peur d'être ridicule, en fait.
Ouais, moi je voulais juste nuancer avec une expérience que j'ai eue en Bretagne.
La Bretagne. R plus Z, voilà.
C'était la page de pub il y a pas très longtemps, enfin genre au mois de septembre. Et en fait, c'est la deuxième année que je vais à une grosse teuf qui est organisée par pas mal de gens et où il y a quelques centaines de personnes. Et un des line-up de cette teuf, c'est aussi de faire de la musique ensemble. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a un mélange assumé d'amateurs et de professionnels. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que le prendre par cet angle-là, en assumant qu'en fait, on n'a pas tous, comme tu disais, c'est pas rémunérateur pour tout le monde, en tout cas pas de la même manière. Et en fait, du coup, ça permet de rejouer aussi ce truc de, ah non, mais tu comprends, c'est le talent, c'est le charisme et tout. Parce qu'en fait, tout le monde a sa place et au contraire, c'est quelque chose qui est valorisé de, et du coup, en fait, c'est une des rares jams où je me suis sentie, mais genre, non seulement à l'aise, mais j'avais plus envie de quitter la scène, en fait. Enfin, genre, j'étais vraiment... alors que j'étais quand même avec une majorité de mecs, j'avoue. Que j'étais même pas sur mon violoncelle à moi, parce que du coup, j'avais emprunté le violoncelle de quelqu'un, donc c'était pas aussi confortable que ça aurait pu l'être et tout. Mais c'était clairement... Enfin, c'était vachement plus ouvert, et du coup, il pouvait y avoir cette dynamique où juste... en fait, de bienveillance, juste par rapport à ce qui est en train de se passer, et de plaisir, en fait. Et je trouve qu'il y a un truc aussi de mise en scène de soi pendant les jams, où genre, t'es grave en train de te faire plaisir à toi-même. Souvent, il y a plein de fois où je trouve tu sens que c'est comme si les personnes n'avaient rien à battre du public en fait, et du coup, des fois ça devient un peu ridicule. En vrai, c'est genre, enfin, toi t'as pas envie de monter sur scène, mais en fait, peut-être pour des bonnes raisons, tu vois. Donc voilà, du coup, juste pour nuancer que des fois c'est peut-être pas, enfin, je sais pas, c'est chiant, c'est grave chiant, mais c'est cool aussi de faire autrement, ouais.
Bah, merci pour ce témoignage déjà, et ouais, du coup, ça me fait penser, je pense que ce qui serait super chouette, c'est de lancer. Un appel à tous les organisateurs et organisatrices de jam, tu vois, tout comme en Bretagne, tu vois, ce lieu-là a permis de casser un peu la glace entre amateurs, amatrices et pros. Bah, peut-être aussi de faire des soirées un peu spéciales ou même juste sur un créneau, tu vois, où genre, c'est une scène en non-mixité. Parce que du coup, ça permet aussi de prendre ce rôle et j'ai parlé de ma pire expérience de jam, mais ma meilleure, c'était aussi à Paris, et c'était à la Mutinerie. Et du coup, c'est un lieu qui est en non-mixité. Et en fait, c'était incroyable parce que j'avais même jamais rencontré de batteuse et de bassiste femme ou trans. Et genre là, en fait, je prenais conscience que en fait, il y en avait plein, et que là, comme l'espace leur était réservé, et bah ça tournait. Et je pense que c'est vraiment meilleure expérience ever, quoi. Et aussi, en termes de... Comme tu te joues sur scène, et bah, t'as pas le... Enfin, c'était incroyable. Genre, vraiment, dans le jeu, tout le monde... tous pouvaient être... T'as pas trop peur des comportements déviants au sein du public non plus, parce que tu te fais confiance, t'es dans la sororité. Donc voilà, petit appel, juste pour conclure cette chronique. Bah, les jams dans le Diwa, faites des moments en non-mixité.
Carrément.
Oh yeah.
Il y a de joie.
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 Statué.
D'improtoir encore, pas marre de l'écouter, ça devante. En plus, sans transition aucune, ça devient un peu mon expertise, les non-transitions. En fait, j'ai voulu faire un burger quiz, je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah allez vous renseigner. Et donc, il y a une partie dans Burger Quiz qui s'appelle les nuggets. En gros, je vous dis, donc là pour cette thématique, il faut que vous me disiez soit c'est de l'art, soit c'est du lard, ou les deux. Donc je vous dis une phrase et vous me dites de l'art, du lard, ou les deux. Alors, bah on n'a pas de buzzer par contre. Hein,
Merde.
Oui, oui. Ok. Alors, quand c'est vivant, on en fait des concours. Quand c'est mort, on en fait des produits.
Hein? Du lard.
Du lard.
Du lard.
Ou ça peut être les deux. Parce que moi, j'ai aussi l'impression qu'on fait ça avec des artistes qui décèdent et qui tout d'un coup deviennent hyper, comment on dit
Famous.
Famous, ouais. Comment il
célèbre.
C'est comme le phénomène sociologique que les femmes, genre artistes, elles ont des prix en général après leurs 80 ans. C'est pratique. Comme ça, pendant toute leur vie, tout le monde a acheté leurs œuvres pour 3 sous. Et puis, à la fin de leur vie, quand elles vont mourir, vas-y, c'est bon, c'est le moment de la récompense. Merci.
Et ouais, moi, je voulais faire aussi un petit clin d'œil, justement, à mes amis les cochons. Comme vous savez, je les aime énormément.
Ou les vaches. Il y en a un dans la selle.
Et bah c'est vrai que tu vois au salon de l'agriculture, il y a un coin où c'est des bêtes vivantes. Non mais arrête, c'est un truc qui me choque. Et un autre coin, c'est le même cochon mais en barquette. Et là on appelle ça un produit, tu vois. Enfin, je trouve ça hyper violent. Bref, la suite alors. Dollar, du lard,
t'as raison, les deux. Go vegan.
du lard ou les deux, la robe de Lady Gaga ou MTV Awards 2010.
Du lard.
Les deux. De lard.
Tu baisses. Moi je considère que c'est... Enfin, j'arrive pas trop à me positionner sur la question.
Ça dépend si t'es vegan. Voilà,
c'est ça. Est-ce que vous savez pourquoi elle a porté cette robe? Enfin, le message qu'il y avait derrière.
Est-ce qu'on peut dire à quoi elle ressemblait?
Oui, parce que moi je connais pas.
Lady
Gaga, elle a défilé sur le tapis rouge de je ne sais quel festival de mes deux, qui elle avait une robe entière de viande.
Oh non, et les chaussures aussi,
ouais. Choquant.
Et le message, c'était de dire qu'on finit en morceaux de viande si on se bat pas pour nos droits. C'était un peu stylé.
Mais du coup, c'est bizarre parce que les animaux, ils peuvent. Enfin, c'est pas facile de se battre pour ses droits quand t'es un animal, quoi. Ouais. Du coup, de le formaliser comme ça, enfin, tu vois, si on se bat pas pour les droits, peut-être, mais pour ses droits, je pense. Du coup, c'est utiliser un truc que tu vas toi-même exploiter pour soi-disant défendre tes droits à toi.
Mais je pense qu'on peut l'inviter dans la prochaine Fille de Joie.
Ouais, c'est vrai.
Je te trouve un peu incohérente, Gaga. Ok, principal ingrédient du boucané.
C'est quoi?
Du lard.
Et oui, c'est tout un art de faire du boucané.
C'est quoi boucané?
C'est un plat réunionnais, c'est si la famille 974. Et le boucané, c'est un plat de la Réunion avec du lard.
Ok. Mais pourquoi c'est pas de lard?
Si, je dis, c'est tout un art de faire du boucané. Ça peut être les deux aussi. Hein. C'est très tricky. Alors, se retrouver face à deux interprétations sans pouvoir trancher, ou aussi hésiter entre deux choses a priori identiques, ne pas comprendre une situation.
Du lard ou du cochon?
Exactement. C'est du lard. Le symbole de l'islamophobie.
Du lard.
Oui. Ouais. Et dernière.
C'est vraiment pas de lard.
Ouais. Tatouer Blanche-Neige sur un cochon.
C'est de l'art.
Ouais, c'est de l'art sur de l'art.
Sans lui demander le consentement quand même au cochon.
Oui, ça va. Là, je crois.
Et à Blanche-Neige.
Ouais.
Droit à l'image.
D'ailleurs, Blanche-Neige.
La pauvre, tous ses consentements sont vraiment bafoués à Blanche-Neige de bout en bout.
Du coup, on peut la tatouer sur du lard, c'est vrai que la cerise sur le gâteau. Quoi.
Et du coup, l'artiste. Sur le cochon, excuse-moi.
L'artiste, c'est Wim Delvoye en 95 qui, justement, pour dénoncer la cause animale, les a tatoués. Il y avait toute une mise en scène où il les élevait dans une ferme en Chine. Et voilà, je voulais juste faire aussi un clin d'œil à Rosa Bonheur qui a fait de beaux tableaux pour dénoncer les conditions animales. Merci à vous d'avoir
participé. Merci, merci. Braval. Bravo.
Oui. Et il me semblerait qu'on continue avec la chronique de Majdou.
Alors moi, j'ai pas de chronique. Par contre, j'ai enregistré une copaine qui est venue au studio de Radio Galère de Marseille et qui m'avait lu un texte. En fait, c'était d'abord pour toucher colis.
On touche le coulis là.
La cuisine de l'art ou pas de l'art? Et en fait, ça se prête très bien à l'art puisqu'elle parle du théâtre. Et c'est un texte qu'elle a écrit qui est très puissant, j'annonce, et qui s'enchaîne du coup avec une chanson de Barbara Valdens, Paix à son âme.
Donc du coup, c'est un texte qui s'appelle « Disco résilience » ou « Comment nous avons séparé l'homme de l'artiste ». C'est un texte de théâtre et donc qui reprend en fait cette phrase « Séparer l'homme de l'artiste » au premier degré. Et donc c'est quatre personnes qui sont victimes d'un agresseur connu, un chanteur populaire, qui vont l'enlever pour en fait vraiment essayer de séparer l'homme de l'artiste et donc le couper en deux. Parfois, j'ai vraiment l'impression de, comment dire, que le théâtre est rempli, quoi, de violence et de discrimination et de. Donc, c'est très compliqué, en fait, de jongler entre l'aspect très concret que je trouve parfois très discriminant, très violent, où il y a beaucoup d'agresseuses aussi, et d'un autre côté, de quand même utiliser cet art
comme un moyen de défense face à toutes ces choses qui me violentent, quoi. Donc c'est un slalom, quoi, on va dire, un petit peu.
Peut-être que la solution, ce serait de se réapproprier.
Tout à fait. Ah, mais alors là, je te dis évidemment, mais bah oui, non, mais c'est définitivement ça qu'il faut faire. Maintenant, c'est vrai que, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a un mode d'emploi pour faire ça, tu vois. Enfin, la réappropriation, c'est un mot que j'ai l'impression assez nouveau, tout ça. Et c'est vrai que des fois, tu te dis, mais comment je fais? Parce qu'en fait, le théâtre, typiquement, c'est un truc tellement ancien, tellement rempli d'institutions que tu te dis, non, mais je suis dépassée et je suis trop petite face à ça, face à cet art très ancien, rempli de codes. Mais définitivement qu'il y a quelque chose à se réapproprier totalement, et je suis persuadée que c'est possible en plus. C'est moi qui ai le marteau maintenant, et je n'ai plus de mère, plus de frère, que des sœurs à qui m'allier. Je n'ai qu'un corps de père devant moi, un corps méchant, ignoble, qui craint le fer, un corps d'homme, avec un tout petit H. Il y a moi, il y a le marteau, et il y a tous ces os qui ne donneraient jamais leur consentement à être brisés. J'enfonce mon fer dans le crâne, j'y vais franco, moi. Je n'ai plus de temps à perdre avec le potentiel jugement de ma mère, de mes frères et même de mes sœurs. J'attaque par le haut, le sommet. C'est un crâne dégoûtant, dégoûtant que j'ouvre, rempli de plaisirs répugnants et de désirs scandaleux, crâne immoral. Mes crânes qui craquent pourtant, comme craquent tous les crânes, comme pourraient craquer les crânes de mes frères et mes sœurs alors qu'elles ne sont que des enfants. Pour qu'ils ne puissent jamais toucher à leur crâne d'enfant. C'est pour ça que j'utilise les deux dents de mon fer. Je les place de sorte à soulever son cuir chevelu. Les os sont éclatés. Ils sont déjà partis loin, loin d'ici. Peut-être pour une vie meilleure, et je vois apparaître son cerveau. Cerveau tout visqueux, tout muqueux, tout nerveux. Dis-moi, dans quelle partie de ton encéphale as-tu rangé ton crime? L'as-tu mis au même endroit que ton génie? Ou alors vit-il paisiblement en compagnie de ta tendresse? Sa cervelle est dans ma main. Elle est trop mignonne. Je l'imaginais grise et malheureuse, alors qu'elle est rose comme les fesses d'un bébé. Je crois que je vais l'adopter, parce qu'elle est vraiment trop chou. De l'avoir rencontrée m'a donné des envies de maternité. C'est bien, c'est sain. C'est ça qu'on attendait de moi, je crois. J'ai enfin trouvé la cervelle qui va devenir la cervelle à sa maman. Je la gâterai, comme on se doit de gâter un enfant. Ça m'énerve déjà de l'imaginer, elle, enfant reine, toute la vie devant soi et un océan de possibles, de l'imaginer, elle, ma chère, chère de chair, me demander « Il est où, papa ? Il est où, mon papa adoré ?» Lui dire maintenant, dès le début, lui dire la vérité. On s'en fiche, on n'a pas besoin de lui. Personne n'a jamais eu besoin d'un père pour se construire sainement, alors oublie la notion de paternité. De toute façon, il est mort. Mort comme une merde, même pas enterré, même pas pleuré par sa mère, ses frères et puis ses sœurs. Et crois-moi, dans l'histoire, c'est loin d'être le plus grand malheur. Je ne lui dis pas que c'est moi qui le tue, que je tue un père pour le symbole, que je frappe, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe sur ses tripes. Mais elles veulent pas exploser, alors je pleure, je pleure, je pleure de n'avoir jamais réussi à voir l'intérieur de l'intérieur d'un père. Je pleure que, même avec un marteau, je ne puisse rien faire face à la souplesse et au rebond du ventre d'un père. Voyons, si je tire sur ces boyaux et que je le vide, maintenant il y a de la place dans ce corps de père pour que je me fasse un abri, je vais m'enfermer ici, hors d'atteinte, protégé de ma mère, de mes frères et de mes sœurs, histoire de fuir un peu les regards, histoire de se recentrer. Personne ne vient fouiller dans le corps d'un père, même quand il ne paye pas ses impôts, même quand il viole des petites filles. Ici, je sais que je suis tranquille. Que je n'ai pas à faire semblant d'être une semblable. Que je n'ai pas à avoir peur de ne plus en être une, parce que je sais qu'on m'a vue avec ce marteau. Et une femme avec un marteau, c'est comme une dernière apparition. On n'a plus le droit même d'être regardée. Et ça, la disparition. La disparition, je préfère encore me l'imposer. Les fondations des côtes sont solides. Il n'y a même pas besoin de travaux. Je suis contente. J'ai perdu ma foi, mais j'ai trouvé ma maison. On est bien dans le corps d'un papa, on est soi. Mais dans ces corps-là, il y a des pulsions basses, et elles m'attrapent. Elles ne me laissent pas le temps de penser un peu à la race humaine, d'avoir des convictions. Elles me rattrapent, elles me demandent de manger un bout de mon chez-moi, de manger un bout du poumon, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut goûter à un papa.
que c'est rare, que c'est précieux, et qu'on a besoin de salir avec nos muqueuses toutes les belles occasions qui passent devant nous. T'as voulu être dans un papa ? Tu vas aller jusqu'au bout, ma grande. C'est ça qu'il me dit, ce corps. Ok, je vais le faire. S'il faut manger un autre de mon espèce pour rester dans le corps d'un père, moi je le fais. Ça me va. C'est un loyer qui me convient. Et je veux bien passer cette épreuve, alors je le fais. Je choisis une pièce tendre. Une où il n'y a pas trop de nerfs, parce que ça me dégoûte sinon. Et je croque. Oh, c'est dégueulasse. Ce mec aura été ignoble jusqu'au bout. Je crache l'homme dans l'homme. Je ris. Je ris de ce que j'ai réussi à accomplir. Je ris parce que si je veux, je peux jouir dans l'homme. Parce que si je veux, je peux jouir dans le père. Voilà. Voilà ce que je fais avec un marteau. Je cogne. Pour détruire et pour bâtir, je cogne. De tout mon cœur, je cogne. Je le démonte. Et à la fin, c'est enfin moi qui gagne.
C'est fini le temps d'être femme, d'être ronde et chaude comme du pain. C'est fini le temps des femelles, des mamelles, des nourrices et du sein. C'est fini. C'est fini le temps d'être femme, d'être ronde et chaude comme du pain. C'est fini le temps des femelles, des mamelles, des nourrices et du sein. C'est fini. Place au temps de l'homme qui dormait, qui payait d'un œil patriarche sur mon ventre et ma chair et mes cuisses et ses terres et ses serres et ses vaches. Place au temps de l'homme qui se libère et qui s'arrache. Place au temps de l'homme qui m'habite. Homme en moi, toi l'homme, le macho dans mes tripes. En moi, toi l'homme, l'homme qui m'habite. Toi qui te cachais derrière mon féminisme sournois, toi que j'écoutais sans savoir, toi qui exerçais ton hystérisant pouvoir, toi qui m'as dressé contre toi, toi l'homme en moi, tu as mangé ton hôte, la femme est bien digérée, ça y est, il n'en reste plus qu'une fumante apocalypse, la place est à toi, homme, ça y est, je l'ai conquis mon grand H, je n'ai plus peur, plus mal au ventre, plus de lait dans mes piles, le clito desséché, ça y est, je l'ai conquis mon grand H, à la sueur de mon front, à la sueur de ma voix, ça y est, je suis un homme, je suis un homme. 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 Toi par ma chair androgyne, qu'une dernière fois j'accomplisse la pénible et féminine besogne de toi, homme. J'accouche, ça y est, je l'ai conquis mon grand H, ça y est, je n'ai plus peur, ça y est, je suis un homme, ça y est, homme, tu es moi. Tu es libre, ça y est, je suis un homme. Place au temps de l'homme qui se libère et qui s'arrache. Place au temps de l'homme qui m'habite, 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 m'habite. Le macho, macho dans mes tripes. Oh, ça suffit. Arrête. Stop, 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 stop. C'est fini.
c'est dans le labo du genre et ce soir je vous propose de vous rappeler un petit peu de Portrait de la jeune fille en feu. Vous avez peut-être vu ce film de Céline Sciamma, drame en costume primé à Cannes pour son scénario en 2019. Et au-delà de représenter l'éclosion amoureuse entre deux femmes, le film propose un double regard en fait. D'une part, montrer que les femmes ont pu investir depuis des siècles des espaces de liberté dans les interstices de la contrainte. Et d'autre part, mettre en abîme par la représentation de cette femme peintre et de son modèle, la question des représentations et du féminisme. Alors on se pose la question ce soir, représenter, est-ce nécessairement reproduire l'ordre social? On se l'est déjà un peu posé tout à l'heure. Regarder, est-ce déjà objectifié? La révolution sociale du genre passe-t-elle par une révolution visuelle? Alors premier acte de cette chronique, la parenthèse enchantée. Loin d'être purement fictionnel, en fait le film a pour toile de fond une réalité qui est assez méconnue. Contrairement à un apparent anachronisme qui projetterait la liberté et l'émancipation féministe contemporaine sur un temps passé, le film raconte fidèlement comment la fin du XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française, a pu ouvrir un espace inédit pour les femmes artistes. Pour ce film, ce n'est pas un hasard si Sciamma prend comme conseillère historique une chercheuse, Séverine Sofio, spécialiste de l'histoire des femmes peintres. En effet, cette dernière a contredit plein de discours de l'histoire de l'art traditionnel, oubliant volontiers les femmes, et mis en évidence justement ce qu'elle appelle la parenthèse enchantée. Il s'agit d'une période toute particulière, en fait tout un siècle, qui relie les années 1750 à 1850 environ, pendant laquelle les artistes femmes ont bénéficié de conditions de travail étonnamment égalitaires, notamment en termes de rémunération. Peu avant la Révolution française, donc, les artistes sont de plus en plus mis, de manière générale, hein, pas les artistes épicènes, enfin si épicènes, mais pas que les femmes, sont de plus en plus mis à l'honneur auprès d'un public qui s'élargit, puisque c'est une période où le goût pour l'art se démocratise, notamment au-delà de certaines élites, et où du coup les besoins en artistes et en enseignement artistique augmentent. Les femmes s'engouffrent alors dans cette brèche qui leur ouvre une voie possible d'ascension sociale, autrement que par le mariage, les coquines. Si la pratique du dessin comme de la musique est alors encouragée pour les femmes, c'est certes au nom d'un capital, que c'est un capital sur le marché matrimonial que ces disciplines artistiques représenteraient pour les jeunes filles. C'est aussi la conséquence de la dévaluation des arts par rapport aux sciences, qui prennent une place grandissante, notamment dans les programmes d'enseignement pour les garçons à cette époque, et qui associent donc, on kiffe, la raison, la culture, l'action, c'est-à-dire le masculin, par opposition aux beaux-arts, activités relevant davantage de l'instinct, de l'imitation, du sentiment, dans lesquels sont supposées exceller naturellement, bien sûr, les femmes, argument qui ferait rugir Virginie Despentes et bien d'autres féministes avant elle. Pourtant, au-delà de ces discours réactionnaires, cette nouvelle situation de demande en artiste ouvre de nouvelles voies professionnelles pour les femmes, aussi artistiquement. Sous couvert de bonne éducation, elles finissent par expérimenter une liberté de créer, y compris en innovant par des formes visuelles inédites. Le salon de l'époque, hein, l'équivalent de la FIAC d'aujourd'hui, si vous connaissez, une foire qui présente les artistes contemporains, récompense donc de plus en plus d'œuvres de femmes. Comment se fait-ce, me direz-vous, dans les décennies où quand même Olympe de Gouges se fait rien moins que trancher la tête? Comme l'art devient en fait de plus en plus un marché privé plutôt qu'une affaire d'État, comme de plus en plus de collectionneurs donc privés se développent avec un peu moins d'argent et d'espace pour les tableaux que l'État ou l'Église, le salon s'adapte et diversifie le type de récompense qu'il attribue. C'est le festival de Cannes de l'époque. Il ne met plus uniquement en valeur la peinture d'histoire, mythologique ou religieuse, les disciplines habituellement les plus nobles en peinture, mais aussi d'autres genres dits mineurs, comme l'aquarelle, la miniature, la peinture sur porcelaine ou encore la peinture de fleurs. Un peu l'ancêtre de Rosa Bonheur dont on parlait tout à l'heure. Or, les femmes excellent justement dans ces nouvelles formes, ces petites formes, et participent de fait à la démocratisation du rapport à l'image dans la société. Ce qui nous amène au deuxième acte de cette chronique. Bien sûr, une ligne importante de fracture demeure à l'époque, avec l'accès aux ateliers de nu qui est donc restreint aux femmes, jusqu'encore au début du XXe siècle, hein, et qui est soutenu par les tenants du modernisme esthétique, mais critiqué par les plus conservateurs pour ne pas atteindre à la moralité de ces bonnes dames. Mais précisément, quand Céline Sciamma consacre un film entier à la peinture d'histoire, une histoire en l'occurrence d'amour, elle ne relaie pas simplement une histoire de femmes peintres, comme on l'a vu maintenant, mais aussi une histoire des femmes regarder des modèles et des muses. Car dans son scénario, alors que Marianne, femme peintre, doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de sortir du couvent, oui, elle sort de la Drôme en fait, hein. C'est le film a été juste déplacé géographiquement. Cette dernière, donc la jeune femme qui doit se marier et dont on veut le portrait, résiste à son destin d'épouse précisément en refusant de poser pour la peintre. Un acte éloquent, car si dans un premier temps le film de Céline Sciamma montre que voir c'est pouvoir, pour la peintre donc, en peindre c'est gagner l'autonomie de la représentation, elle montre aussi que refuser d'être regardée c'est une autre manière de reprendre le pouvoir.
Ainsi, pour une fois, une femme modèle est dans une position active, ni inerte, ni passive ou lascive, comme elle est souvent représentée à travers le regard féminin, masculin, pardon, le male gaze. Tout se joue en effet dans le film autour du regard, celui de l'artiste sur son modèle, de la femme sur sa bien-aimée, des regards en cachette, des regards échangés, des regards aussi de la réalisatrice sur ses actrices, sur la passion et sur l'acte de création, mais aussi sur la place des femmes en histoire. Siama met donc en évidence la valeur du regard et la façon dont elle filme ses actrices de façon horizontale, égalitaire, leur donne tout leur potentiel créateur, l'autonomie et la sororité. Ainsi, elle plante son dard dans le monde de l'art, sans trompette et sans phare, par la mise en image de cette utopie comme un phare dans la nuit, elle nous montre la voie des possibles.
Merci, le labo du genre. On est pressé par le temps, on ne sait pas quoi faire.
Oui, voilà, il faut vous dire, auditeuristes, que nous, on a toujours plein de choses à dire, plein de choses à partager. Puis peut-être que ça n'en a pas l'air, mais en fait, on est souvent pressé par le temps. Et là, on a des choix à faire dans tout ce qu'on a envie de vous proposer. Et on ne sait pas trop par où aller. Et du coup, on enchaîne un peu vite. Donc j'espère que ça reste agréable. Mais on a encore envie de rire, en fait, avec vous, Madame Trottoir, parce que vous nous faites rire.
Alors c'est le même jeu que tout à l'heure, cette fois c'est de l'art, connard ou les deux. Alors, Vera qui triche. Une personne dont le comportement est malsain, déplacé ou inadéquat.
Connard.
Oui, et ben, j'étais trop contente de savoir cette définition, parce que je me suis dit que c'était... En fait, on peut utiliser connard. Genre c'est pas comme ça, c'est juste que le comportement est malsain ou déplacé en fait.
Ouais, c'est juste que ça vient de con, donc c'est peut-être pas le meilleur, la meilleure insulte, mais vas-y, on se réapproprie,
Ok, les stagiaires c'est fait pour faire des pipes et du café.
Connard.
Exactement, qui a dit ça?
Moi.
Non. J'espère que c'est pas toi qui a dit que les stagiaires c'était fait pour faire des pipes et du café.
Mais il y a quelqu'un qui a vraiment dit ça.
Ouais, c'est Éric Zemmour.
Oh, non. J'allais dire Roosevelt, mais c'est pas
Oh my god.
Un bloc géant installé sur la place Vendôme de Paris.
L'art.
Oui. Et qui a été
traité.
Un bloc géant installé sur la place Vendôme de Paris.
Encore un nouveau phallus, on en avait manqué.
Ouais. En fait, c'est, je sais plus comment il s'appelle l'artiste qui est, apparemment c'était un sapin à la base et ça ressemblait un peu à un plug et en fait il a été interdit par les institutions religieuses qui ont dit que c'était complètement déplacé, du coup qu'ils l'ont traité de connard, d'avoir mis un plug anal géant sur la place Vendôme de Paris alors que c'était censé être un sapin.
Ok. Oh, l'échec.
Déchirer son œuvre juste après l'avoir vendue aux enchères.
De l'art.
De l'art, ouais.
C'est Banksy qui a fait
ça. Ouais, c'est ça, ouais. Il a vendu son œuvre aux enchères et en fait, il y avait un petit mécanisme qui l'a fait passer dans une broyeuse comme ça après. Wow. Il l'a vendu à je sais pas combien de.
Et la personne a demandé un remboursement ou
Non, il l'avait acheté, c'est trop tard. Vendu à Dugé. Vendre son caca à 35 000 euros.
Mais non.
Connard. Ça se fait pas.
Ça, c'est un débat qu'on aura dans une autre émission. C'est notamment un artiste qui s'appelle Piero Manzoni qui vendait son caca dans des petites boîtes en disant que c'était de la merde d'or. Et voilà, il y a tout un débat à avoir autour de ça qu'on aura peut-être ensuite autour d'une bière.
Okay. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir participé.
Le prochain épisode, il est assez fort au micro, j'ai pas
ouais. Le prochain épisode, ça sera caca doigt. Lulu, tu sais qu'il y a le bourdon qui se réveille.
Auditoris, ce fut la dernière intervention des filles de joie numéro 6 d'Ardar. Le point info, et ensuite nous quitterons sur une musique de drag queen, car c'est un grand art également qu'on n'aura pas le temps de parler.
Je voulais juste, par rapport à la musique, parce que du coup on va mettre cette musique, juste dire que c'était l'idée de Faune.
Faune voulait faire une chronique sur les drag queens.
Donc on n'en parle pas parce qu'on en a, on en a rien à faire, c'est juste parce que la personne qui voulait faire cette chronique n'est pas là et du coup.
Moi, je veux dire que ça avait aussi changé ma vie de découvrir cet art-là, donc profitez-en.
Merci.
It's just fire.